rebonsoir. On va donc avoir un moment d'échange. Alors évidemment, vous êtes invité à poser des questions ou faire des remarques à Damien Fritsch et puis également à Pierre Marques, mais vous n'êtes peut-être pas encore découvert tout à fait de quoi il s'agit. Donc peut-être la première question, et puis ensuite on fera la projection de trois séries, hein, donc de votre travail, et vous comprendrez combien ces travaux sont liés, le film et le travail graphique, artistique, illustratif de Pierre. D'abord, je voulais vous demander à l'un et l'autre avec quelle mémoire personnelle, affective, est-ce que vous avez abordé la ville de Sarajevo? Qu'est-ce qui vous a peut-être aimanté aussi vers cette ville?
D'abord, bonsoir et puis merci d'être là. Moi, ça me fait très plaisir de voir un public. Ça fait maintenant presque plus d'un an que le film est terminé, donc je vois qu'il est vraiment terminé quand il y a une projection. Enfin, pour moi, c'est un premier pas vers le... On peut commencer à quitter un film, donc je suis très ému à la fois et impressionné, parce que c'est une soirée très sérieuse, il y a des gens importants, enfin, il y a aussi Pierre, il y a un artiste. Enfin bon, voilà. Parler d'une mémoire affective, c'est un peu compliqué, mais en tous les cas, c'est vrai que le film s'est fait un peu sur... à partir d'une vraie première rencontre avec Sarajevo qui a eu lieu en 2003, donc un peu plus de 10 ans après le début du conflit, et c'est là que j'ai découvert la ville, ses habitants, et j'y suis resté 15 jours, et en fait j'ai fait des photographies là-bas, et après ce premier voyage, je savais que j'avais envie de faire quelque chose, mais je ne savais pas trop quoi, parce que plein de difficultés, la langue, etc. Moi, je ne parle pas le serbo-croate. Et je me suis dit, mais comment appréhender cette ville et tout ça? Et puis, bon, ça a cheminé, ça a un peu travaillé dans ma tête. Et 2 ans après, j'ai commencé à écrire un film qui s'est en fait déclenché sur ce qu'il y avait de présent dans la ville aujourd'hui, c'est-à-dire un mélange d'errance, un mélange de ruines, un mélange un début de modernité, un truc complètement chaotique. Et je pense que c'est cette espèce de chaos, mais qui n'est pas un chaos... c'est pas le chaos moderne, enfin c'est comme si c'était... comme si j'allais tourner... sur les ruines de la Grèce. Enfin, ça me ramène à un temps beaucoup plus ancien que ces 20 ans ou ces 10 ans qui s'étaient passés depuis la fin de la guerre. Et parce que cette ville respire une culture très ancienne, elle respire des croisements de cultures, elle respire une drôle d'humanité qui m'a en fait donné envie de faire ce film. Bon, j'arrête là.
Et Pierre, même question, là. Qu'est-ce qui vous a amené à Sarajevo? Quelque chose de personnel, une recherche artistique, ou bien sûr tout ça mêlé?
Je découvre Sarajevo, je crois comme beaucoup d'entre nous, en 84 à la télévision, à travers les Jeux Olympiques, en noir et blanc, étrangement. Et je me retrouve au centre André Malraux il y a une dizaine d'années. Et en se promenant dans les bois, je tombe un peu par hasard sur des masses de béton perdues, sans pouvoir les identifier. Et comme a décrit très bien Damien, je dois vous remercier pour m'avoir à nouveau remué l'état de choses qui restent en moi à travers cette ville et ses joies et ses peines. Retrouver justement, pour revenir à ces structures-là, cette histoire hein, qui était là, qui quelque part m'attendait et qui par hasard, mais j'ai eu la chance de pouvoir y poser le pied dessus et à partir de là se sont ouverts un tas de réflexions et de démarches pour comprendre la violence et essayer de la traduire d'une façon d'une vue autre que dans la ville justement et de l'avoir sur les hauteurs justement de sur cette montagne. Voilà mon premier contact avec Sarajevo. C'est assez compliqué, Sarajevo, comme tu as su le dire aussi. On ne comprend pas tout. C'est juste à côté. Et puis on y retourne et on est obligé d'y retourner pour essayer d'en comprendre un peu plus.
Alors on va peut-être lancer quelques projections une projection du travail de Pierre, ce qui nous permettra ensuite de relier les choses parce qu'elles se relient tellement fortement. Voilà. Et peut-être si vous voulez commenter.
Donc voilà, c'est aussi par hasard que je rencontre un garçon dans un bar très tard dans la nuit dans le centre de Sarajevo, et j'étais justement à la recherche d'une forme, d'une image ou d'un symbole qui pourrait représenter et qui pourrait traduire facilement la violence qu'on était en train de vivre, qu'on avait vécue et qu'on malheureusement vit encore aujourd'hui et qu'on continuera à vivre, je pense. Il m'a proposé sous la table de lui acheter une arme, auquel cas la Kalachnikov, la AK-47, qui est évidemment l'arme de poing d'un tas de combattants et de, je crois, 80% des combattants en Bosnie possédaient cette arme. Mais je ne voulais pas justement la représenter. Et mon objectif, c'était garder la forme et laisser passer et représenter ce vide qu'elle laisse finalement. Et donc c'est pour ça que je me suis appuyé sur des supports comme des feuilles, des pages de magazines, en gardant du texte original de la page, pour lui donner justement un autre type de lecture hein, et une autre dimension qui n'est pas que celle de l'arme, mais justement de ses effets et de son vide qu'elle laisse. Donc voilà, ça c'est mon premier contact, on va dire, créatif avec ma première visite à Sarajevo. C'était en 2005. Nous sommes en 2014 et je continue cette série parce qu'elle est malheureusement toujours d'actualité et elle laisse autant de vide. Ensuite, avec Matthias Senar, on décide, on retourne à Sarajevo et je lui fais voir ces morceaux de béton qu'on voyait dans les montagnes. Je les avais toujours pas identifiés. Et on décide, par la magie, à travers la magie et les gens de cette ville, de faire quelque chose dont on ne savait pas quoi. On ne savait pas si c'était une œuvre, hein, une sculpture ou un livre. Bon. il se trouve que Mathias Sénard écrit pas mal, donc j'ai profité de lui et on a pu faire un livre. Donc une nouvelle, un roman graphique qui s'appelle Tout sera oublié. Et qui parle de mémoire historique d'un artiste à qui l'Union européenne commande un mémorial pour les disparus et les trois communautés. Et donc voilà, on tombe sur des trucs comme ça en pleine forêt. Et on s'aperçoit voilà, que ça nous renvoie justement à cette époque des Jeux Olympiques, hein, une époque de paix, une époque mouvement. Bon, le mouvement olympique, on sait ce que c'est. Et ce contraste est très dur finalement parce que ces éléments sont à la fois très beaux, blessés, amputé comme la ville et comme ces gens. J'ai retrouvé dans le film beaucoup de points communs. Les lieux, c'est un peu normal. Mais j'ai pas eu l'occasion justement de rencontrer les gens et c'est ce qui dans ce travail là ça manque peut-être un peu de témoignages comme ça et c'est ce qui me manquait, c'est pour ça que je suis quand même très troublé par ça, parce que j'ai trouvé dans le film pas une continuité, mais une complémentarité dans le support visuel aussi qui est très équilibré et qui raconte beaucoup plus de choses que ce qu'on en voit. Et cette deuxième lecture qui est toujours qui pèse toujours autant, cette mémoire, ce vide toujours que l'on essaie de transmettre et qui est là, présent, on le sent toujours, qui pèse.
Il y a quand même dans Tout sera oublié, il y a quand même deux personnages. Hein. Il y a le personnage de Marina et le personnage de Igor. Hein. C'est ça.
Igor est un écrivain.
Voilà. Donc il y a quand même une part de... Alors, parce que c'est un livre, enfin un roman graphique, enfin je ne sais pas comment l'appeler, qui pose une certaine ambiguïté, puisqu'on voit qu'il y a une dimension documentaire, ne serait-ce que les photographies qui sont retravaillées, et puis aussi une part fictionnelle. Alors, comment est-ce que vous avez travaillé ce double régime, à la fois documentaire et fictionnel dans cet ouvrage?
On n'a pas vraiment une méthode de travail. Je crois que le travail en commun qu'on a fait, c'est justement le voyage. C'est le voyage qui va produire le matériel. Et c'est le voyage qui va nous guider sur des idées. Et ensuite, on va mettre à plat un peu de texte et quelques images, essayer de tracer comme ça un storyboard, et à partir de là on continue à travailler en sachant que justement le voyage en partie va nous guider, mais on travaille aussi l'effet même de la thématique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on ferait nous si on était à la place de l'artiste, quelles seraient les solutions, comment on va pouvoir parler et matérialiser cette absence pour qu'il y ait mémoire.
Et d'ailleurs, c'est un autre point commun avec le film de Damien, c'est que on retrouve, enfin, en tout cas une correspondance, c'est que ce personnage qui doit faire un mémorial et puis qui ne sait pas du tout comment réaliser, enfin, il bute sur une sorte d'aporie comme ça, et qui est.
Il est même pas d'accord avec ça,
Oui,
avec
voilà.
le
Même,
concept de créer un mémorial pour qui?
Mais ça, disons qu'il y a l'idée d'inscrire sur les murs, etc. Puis c'est quelque chose qu'on
Exact.
retrouve, et c'est
Qu'on
une autre
retrouve
correspondance qui intervient dans le. On est
avec des
passé
graffiteurs.
à
Oui, alors là,
une autre
on passe à
série.
la troisième étape de mon travail sur la mémoire. On a commencé par un chapitre. On n'a pas commencé par le premier chapitre, hein, je veux dire. Après un voyage en Pologne, nous avons visité les camps de l'action Reinhardt, de Sobibor à Treblinka, en passant par Auschwitz, Birkenau, etc. Et là, on voit exactement ce que sont les mémoriaux. Mais finalement, les sculptures, hein, les monuments n'ont pas autant d'impact que l'absence et le silence qu'on trouve sur ces lieux-là. Alors, comment représenter justement cette absence? Comment représenter ce silence? Le seul et meilleur représentant et témoin de ces horreurs, j'en déduis et j'affirme que c'est que le paysage. Il n'y a que le paysage qui peut représenter et qui est encore témoin mais voilà, des horreurs comme il y a eu pendant la Première, pendant la Seconde Guerre mondiale dans les Balkans, etc.
Voilà. Donc je montre de loin donc le livre qui correspond à la deuxième série que l'on a vue, hein, donc Pierre Marquès, en collaboration avec l'écrivain Mathias Hénard, qui est publié au Actes Sud BD. Voilà. Et j'ai eu le plaisir de le découvrir à l'occasion. Damien, est-ce que tu voudrais réagir aussi par rapport à, puisque tu as eu connaissance de cet ouvrage, et quelle impression est-ce que
Oui, j'ai eu la chance de lire et de regarder le livre de Pierre et de Mathias avant, parce que je voulais vraiment le découvrir. Je voulais pas qu'on se rencontre comme ça. Puis voilà, c'était disponible, donc j'étais curieux de le découvrir. Et je crois que c'est bon, à la fois c'est assez compliqué. Je pense pour Pierre de parler d'un objet comme ça, il faut l'avoir entre les mains, il faut rester dedans. C'est à la fois de l'illustration, c'est à la fois du texte, ça travaille énormément ensemble, c'est très intrigant, c'est très mystérieux. C'est un exercice pas facile à faire de commenter un livre sans que les gens l'aient lu. Moi je l'ai lu, j'ai été très touché, du coup j'ai. Rien que par les images. Alors, j'ai juste une question. Je voulais savoir comment tu as travaillé les peintures. C'est-à-dire, est-ce que c'est des photographies que tu as
Oui,
faites?
je voulais aussi que la mémoire soit participe et soit outil dans ce livre. Donc, j'ai transformé du matériel photo. C'est des photos qui sont passées au noir et blanc, qui sont imprimées en noir et blanc. Et j'ai repassé avec ma mémoire, avec mon ressenti du lieu et de l'histoire, je lui ai posé des couleurs dessus. Voilà, donc je lui donne une autre couche, de la peau, de la chair, pour qu'elle ait justement un cœur et pour qu'elle puisse vivre aussi dans ma tête.
Merci pour ce beau film. Moi, je suis bosniaque qui vit ici 35 ans. Je suis venue étudier, j'ai pas vécu la guerre. Mais j'aimerais bien savoir, vous parler de tous ces horreurs, des chaos. Mais vous n'allez pas jusqu'au bout pour savoir pourquoi tout ça. Qui a fait quoi? Vous trois communautés, les haines longues des siècles. Mais pas du tout. Vous parlez pas du tout des origines de la guerre. Vous parlez pas du tout, pas seulement vous. Merci d'avoir fait ce film maintenant, quand personne ne parle de Bosnie. Quand il y a un printemps bosniaque où les gens aussi se font blesser, ils restent sans maison et tout ça, que personne ne réagit. Aucun journal occidental, pas seulement en France, mais nulle part, ne parle de ce printemps. Et les gens, il y a une bataille de survie extraordinaire depuis 3 mois. Alors, vous parlez aussi des camps d'Auschwitz, mais il y a des camps en Bosnie. Il y en a beaucoup.
Oui, il y en a partout.
Non, mais je veux dire, il y a des camps qui sont visibles, qui existaient depuis 20 ans. Il y en a partout, oui. Il y a Drancy, en France et tout ça, oui, on sait. Mais ça, c'est long, 60 ans. Mais là, c'est une guerre qui a... Chaque mois, en Bosnie, on dit 100 000 personnes mortes. Chaque mois, il y a des fosses communes qui sont découvertes. Et ça, on dit toujours, moi ce que je ne comprends pas, quand même je sais comment les Occidentaux pensent, je suis ici 35 ans, mais ce que je ne comprends pas, pourquoi on ne va pas dans la profondeur des choses quand on parle des musulmans. Des musulmans bosniaques sont des slaves comme les autres, ce sont des anciennes hérétiques, des bogomiles. Et oui, j'ai posé. J'ai demandé pourquoi n'allez-vous au fond des choses. Vous montrez des peintures, de tout. C'est très beau. Mais chaos, il reste. Vous le rappelez qu'il existe. Mais pas seulement vous, mais les autres aussi. Vous n'allez pas dans le but des choses. Toujours trois communautés, toujours quelque chose. Les gens qui étaient déjà là, toujours quelque chose qui est dans le vague, dans les vapes. Merci.
Donc la question, c'est de savoir pourquoi je ne vais pas au fond des choses, c'est ça?
Non. Pourquoi ne pas expliquer les
pourquoi j'ai pas expliqué pourquoi tout ça? Parce que... Pardon?
Les gens ne comprennent pas.
Pourquoi ça a eu lieu?
Non, les gens ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe.
Qu'est-ce qui se passe? Ah ben, je ne sais pas. Hein. Bon, on verra, c'est peut-être... Il y a des gens qui ont compris ce qui se passait. En tous les cas, si vous voulez... ma position, elle est assez simple dans ce film. Je suis un cinéaste étranger de surcroît français qui débarque là-bas. On ne sait pas pour quelle raison. Peu importe, en tous les cas, je vais aller chercher, je vais aller rencontrer des gens. Bah, alors, il y a effectivement plein de gens que je rencontre qui me racontent différentes choses et qui me racontent évidemment leur passé, leur mémoire de la guerre. Essaye d'apporter une compréhension de ce qu'ils ont vécu eux à ce moment-là. Bon, je crois que ça c'est assez clair, je ne vais pas vous faire l'explication du film, mais en tous les cas, je crois que pendant la guerre, il y a eu énormément de films, c'est-à-dire sur les 4-5 ans de conflit, il y a eu énormément de films. La BBC a fait des films fabuleux sur l'explication même du conflit. Hein. Je ne sais plus comment s'appelle ce film magnifique... Warriors. Alors, je vous conseille de le voir, c'est 8 heures de film ou 6 heures de film. C'est des épisodes de 26 minutes, il y en a 10 ou je sais plus combien il y en a. Ça, c'était pendant la guerre que la BBC a mis en route, je crois que c'est l'équipe de. Comment il s'appelle de ce grand. C'est une équipe de journalistes, je crois qu'il y a 60 personnes qui ont bossé. Bon, ben voilà. Donc écoutez, ce film-là est une référence. Moi, je ne suis pas journaliste, je suis cinéaste et je viens aujourd'hui. Je viens 20 ans après parce que je ne voulais pas y aller pendant la guerre. Hein. Je ne voulais pas me mettre en situation de danger. Je ne voulais pas risquer ma vie pour faire un travail. Je ne savais même pas ce que j'aurais fait à ce moment-là. Bon, donc je viens après et j'essaye de montrer ce qu'est le présent et comment on peut tenter de reconstruire quelque chose dans sa tête et comment on peut vaguement envisager un futur. Donc voilà, c'est ça que j'essaie de décrire, un présent, et pas du tout d'enquêter sur l'origine, c'est vrai que ça m'intéresse pas parce que je sais pas faire ce travail-là, c'est pas mon point de vue, c'est pas ça que je défends. Donc je comprends que vous soyez un peu frustré de ce côté-là. Donc moi, c'est voir comment ces gens-là vivent aujourd'hui, 20 ans après.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ? Sinon, j'ai des questions, moi.
Donc il y a quelque chose de voilà, là encore de commun, mais je vais commencer par le film. C'est le film alors qui se tient très très près parfois hein, avec des gros plans. Peut-être on reparlera tout à l'heure peut-être de cette dimension du portrait. Et par contre, le film est aussi une recherche d'un point de vue sur la ville. Et qui commence par un point de vue très très fort et qui d'ailleurs est un peu un retournement du point de vue médiatique tel qu'on la voyait, tel qu'on voyait dans les actualités. Enfin, parlez-nous de cette recherche du point de vue qui est aussi une recherche de la ville d'une certaine manière, du meilleur endroit pour la voir ou pour l'embrasser. Enfin, je ne sais pas.
C'est-à-dire que de la même manière que j'essayais de composer une géographie humaine, j'ai essayé de composer une géographie de cette ville, c'est-à-dire lui redonner un corps. Et peut-être vous savez pas aujourd'hui comment elle fonctionne, cette ville. Peut-être c'est morcelé et tout ça, parce que c'est très difficile d'embrasser comme ça une ville. Quoique j'avais imaginé un plan, et puis ça n'a pas pu se faire, mais peut-être tant mieux que ça ne soit pas fait. Mais voilà, c'était fabriquer le contenant de là où habitent ces gens-là, aller à leur rencontre. Il y avait une double démarche, aller à la rencontre des gens et à la fois recomposer cette ville par quartier, par morceaux, par un bout que sur lequel j'ai pas insisté, c'est les ruines. Enfin voilà, je suis pas allé à la recherche de ruines, même s'il y en a à la fin, elles sont toutes à la fin, les ruines. Mais surtout de voir comment l'architecture, de quoi elle est faite l'architecture, de comment ça se reconstruit, qu'est-ce qui s'y passe, pour qu'on voit un peu, qu'on palpe ce présent. Enfin voilà, c'est vraiment, je revendique ce présent dans le film. Hein. Et ce présent, malheureusement, c'est un présent qui dure depuis quasiment la fin de la guerre. Voilà, donc c'est un présent qui stagne et qui est quelque chose qui n'avance pas. C'est peut-être à l'image de ce film qui est aussi un peu... il pousse par moments, il se repositionne, il avance peut-être difficilement aussi, mais je pense qu'il avance comme la vie avance pour ces gens-là.
Et est-ce qu'il y a quelque chose de chronologique ou de se rendre donc ces sommets voisins, d'où étaient tirés les obus de mortier, hein, c'est ça aussi. C'est ça, c'est là où le début est assez saisissant. Et tout à l'heure, en parlant à Pierre, c'est ça aussi, que c'est cet endroit que vous êtes allé voir la première fois.
Oui, j'y tombe par hasard la première fois, mais on s'aperçoit finalement de la facilité de comment détruire finalement. Sur ces sommets. C'est pour ça que le lieu est aussi intéressant. Dans mon cas, pour y mettre un point, pour dire c'est ici aussi que l'histoire s'est faite. C'est sur ces lieux, c'est ces lieux qu'il ne faut pas oublier aussi, malgré que ce soit que de la nature. Malgré qu'il n'y ait aucun habitant, malgré qu'il n'y ait pas de vie, on va dire, à part le paysage.
Ouais, alors moi, c'est vrai que dans le film, je le traite au début et après, j'essaye de plus y revenir. C'est-à-dire, j'essaye plus de surplomber, en fait. Parce que ça, c'est la position de l'attaquant. Enfin, et cette position, je la traite dès le début. C'est pour ça que ce début est comme ça, est une espèce de bulle spatio-temporelle un peu indéfinie, qui on ne sait pas si elle appartient au présent, si c'est un morceau du passé. Et après, je plonge dans la ville. Et j'essaye de rester dans sa superficie qui embrasse à peu près 15 km de longueur, enfin ce que dit cet architecte, et voilà, et après je me déplace là, mais je ne retourne plus dans la vraie hauteur qui est, même si à la fin on est au-dessus de la ville, mais on est dans la ville. Quand on est le dernier plan, on est avec le personnage principal Stanko, on est en pleine ville, mais légèrement en hauteur. On n'est pas dans les bois, de là où tiraient effectivement les attaquants.
Bonsoir. Je voudrais remercier Damien pour ce film que j'ai trouvé vraiment magnifique. Pour moi, il remue beaucoup de choses, puisque j'étais en 94 et 95 à Sarajevo, j'y ai tourné un film. Et donc j'étais très très avide de voir cette ville que j'ai pas revue depuis ce moment-là. Et ce que je trouve vraiment remarquable, c'est la manière dont vous avez rendu aux habitants de Sarajevo la dignité que j'avais sentie qu'ils avaient pendant le siège. C'est-à-dire cette manière de parler de choses graves avec beaucoup d'humour, beaucoup de finesse, une sorte de détachement qui est d'une élégance suprême. Voilà, merci beaucoup.
Merci. Je ne vais rien rajouter là. Hein. J'ai dit merci.
Et alors, justement, en contrepoint du paysage, il y a, je l'ai dit tout à l'heure, la question du portrait, au sens du portrait comme narration, mais aussi du portrait presque dans un sens, enfin pas presque, hein, complètement dans un sens pictural, avec des choix de cadrage très très rapprochés, etc. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette approche cinématographique, un vrai choix cinématographique, est-ce qu'il y avait cette question du portrait, tout simplement.
Oui, peut-être du très gros plan, parce qu'il s'agit en fait, c'est plutôt ça qui est... C'est pas un moment, je veux être vraiment en très gros plan. Je pense que si le zoom de la caméra avait pu aller encore plus loin, je serais encore allé plus loin. Mais c'est vrai que c'est un film où j'utilise beaucoup le zoom. Et c'est un de mes films où je l'utilise certainement le plus. En fait, pour moi, c'est vraiment mon œil là qui avait besoin de soit des fois de me rapprocher des personnes, et je voulais pas, parce que en fait tout dépendait, parce que des fois j'y allais physiquement avec mon corps, mais des fois j'essayais de zoomer sur eux, et c'est presque pour encore mieux être proche de tout simplement de l'émotion que je sentais. À chaque fois ça zoome quand je sens qu'il y a quelque chose qui va advenir sur le visage, qu'il y a une gravité qui va se poser. En fait, c'est un peu ça qui, c'est pour ça que je le disais au début, ce qui m'a attiré quand j'ai fait mes photographies, je les avais fait avec une optique fixe à 1,50 et j'ai ramené des photographies qui sont quasiment en plan taille comme ça, et après, ce que j'ai fait, j'ai agrandi les visages, et je voulais voir vraiment les expressions qu'il y avait dans ces visages. Et je trouvais que c'était un mélange de gravité et à la fois de force. Il y avait quelque chose là-dedans que j'aimais bien. C'est pour ça que j'utilise le zoom pour aller sur les visages, parce que je voulais renforcer ça. Alors, peut-être que ça ne marche pas du tout, mais ça peut peut-être énerver beaucoup de monde d'utiliser le zoom à outrance, mais j'avais vraiment besoin de créer ça, quelque chose que je n'avais pas. Je voulais pas me tenir dans la même position, je voulais que la caméra soit vivante, voilà, je voulais et que ça soit à la fois des fois un engagement physique avec mon corps, mais aussi avec montrer que c'est une caméra qui filme, faire vraiment utiliser les possibilités aussi de la machine, ce qui m'arrive très rarement, hein. Je crois que j'utilise jamais le zoom, ou très peu, voilà. Mais là, ça, c'est tout le temps. Il y en a, je sais pas combien il y en a. Enfin,
ce qui est intéressant, c'est que ça ne fiche pas du tout la question de l'entretien. Enfin, ça rend extrêmement vivant et cinématographique la question de l'entretien, qui a tendance parfois à figer, voire un peu formater les films. Alors que ici, c'est une espèce de remise en scène perpétuelle de l'entretien que je trouve très belle, très intéressante.
Ouais, alors. pour les enfin tout ce qui était entretien, qui sont des espèces c'est des espèces de tentatives de ma part de déclencher des choses, mais de les déclencher toujours en situation, sauf une fois, et c'est avec mon personnage principal, où là on le met un peu en situation d'entretien, on parle avec lui, on lui rappelle, on essaie de rappeler d'où il est, enfin, etc. Donc ça, c'est plus un peu posé. Et encore le couple de gens âgés au début, mais sinon j'essayais toujours de éviter que les gens soient assis. En fait, c'était ma hantise, c'est de les faire s'asseoir. Et puis on parle, parce qu'avec les Sarajeviens, quand on s'assied, on peut parler très longtemps. Et puis on peut filmer du coup très longtemps. Et puis ça. Bon, il faut savoir vraiment de quoi on veut parler. Donc j'évitais ça parce que c'était un piège. On m'avait fait le coup plusieurs fois et je m'étais fait piéger. Donc je voulais vraiment les rendre mobiles, quoi. Enfin, et que ça bouge et qu'il y ait des trucs. Voilà.
Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, hein? Donc je vais poser une question à Pierre. Et ce qu'on retrouve aussi, c'est qu'on a l'impression que quand on va dans ce présent de Sarajevo, donc évidemment on retombe assez vite sur la mémoire de la guerre, de la, on pourrait dire la dernière. Et puis en tout cas tout sera oublié, c'est presque l'idée de. On retombe finalement un petit peu sur l'idée de la tragédie du XXe siècle, enfin, en tout cas, et notamment le tout sera oublié s'ouvre notamment avec un monument aux morts de 14-18, bien de chez nous. Donc il y a vraiment aussi cette méditation de l'histoire et de la mémoire. Donc Sarajevo représente pour vous ça.
Oui, en partie.
Elle
oui,
condensée.
Elle m'est contemporaine aussi. C'est la première guerre que l'on vit en direct, on va dire. Mais d'assez loin, mais de tout près aussi. C'est la première que je vois réellement à la télévision. Je me reconnais à travers les gens. Ils sont habillés comme moi. Ils mangent presque comme moi, ils boivent aussi du Coca-Cola et ont des skateboards en plastique. C'est à partir de là que la mémoire devient plus importante, parce qu'on la vit finalement.
Vous dites je suis un touriste de la guerre, enfin, puisque vous... finalement retomber sur des endroits vus dans une représentation médiatique.
Exactement, parce que c'est pas la même chose d'aller à Verdun ou à Auschwitz. On les a étudiés à l'école, on les a vus dans les livres d'histoire, mais Sarajevo, non. Sarajevo, on l'a vu à la télé, quoi. C'est pop, quoi. C'est nous, c'est une partie de notre vie. Et donc oui, je répète, on vit la mémoire. Si fragile qu'elle soit.
Et Damien, on retrouve aussi finalement une espèce d'élargissement comme ça du spectre de la mémoire avec cette rencontre assez impressionnante de cet Allemand qui s'intéresse au judaïsme, etc. Donc comment est-ce que vous avez aussi vécu et puis comment vous avez réfléchi pour faire rentrer finalement tout ça dans le présent du film?
C'est la première fois que je fais un film avec autant de personnages. C'était un peu un pari, c'est un pari peut-être complètement fou, mais c'était quelque chose que je voulais vraiment. Et j'étais assez sûr que de toute façon, je voulais embrasser vraiment Enfin, je voulais vraiment beaucoup de monde dans ce film. Et même s'ils ne sont là que 2 minutes, et peut-être c'est pas. Peut-être les documentaristes hurlent quand c'est qu'une minute trente ou quand c'est juste un petit passage comme ça. Et ben, je voulais ces poches de vie en fait qui sont un peu partout, même des choses un peu prises comme ça. Je voulais des atmosphères, des ambiances. Je voulais vraiment qu'on sente cette ville aussi autrement que. Alors il y a les paysages, mais il y a aussi plein d'ambiances qui n'ont rien à voir avec l'architecture. Il y a il y a de la foule, il y a des places, il y a une fête folklorique. Enfin voilà, des petites choses comme ça. Tout ça sont des poches de vie pour voilà, c'est, la vie continue d'une certaine façon. Et puis les personnages viennent, ils sont bien. Enfin on les a placé d'une certaine façon pour que ça tienne. Enfin, ça a été très compliqué à trouver l'ordre, la suite, le rythme de ce film. Enfin, on a énormément, avec Christine, qui je sais plus où elle est peut-être partie. Non, elle est là. On a énormément travaillé. D'ailleurs, on a fait une belle expérience de montage. On a travaillé à quatre mains. Enfin, c'est comme si on avait eu un piano. Et puis, elle jouait de ce côté-là. Elle jouait de l'autre côté dans les graves. Moi, je jouais dans les graves. Elle jouait dans les aigus. Et puis, on a essayé de composer le montage comme ça. Et c'est une très belle expérience. Difficile parce qu'on avait beaucoup de matériaux. Et elle n'était pas sûre. Mais en plus, moi, je suis toujours. J'ai encore plus tendance à en mettre, donc il fallait surtout enlever. Pour ça, je remercie Christine parce qu'elle a l'art d'enlever en fait. Moi, j'ai l'art de mettre, donc on est arrivé à trouver un équilibre à peu près. Et puis ça s'est joué comme ça. Donc effectivement, le poids de chacun n'est pas identique et j'aime beaucoup ça parce que et c'est peut-être ce qu'on peut reprocher au film. C'est le fait que je n'ai pas creusé par moment plus, j'aime bien ça aussi. Parce que je suis aussi celui qui me laisse impressionner. Je crois que la fragilité du film, je le sais aujourd'hui, c'est dans son côté impressionniste. Mais j'aime beaucoup ça. Voilà. Je revendique ça.
Il y a un personnage qui revient trois fois, hein, c'est ça
Oui, il revient quatre fois. Même cinq fois.
Le passage du temps avec lui.
Oui. C'est le seul.
Ensuite, il y a l'enfant.
Oui.
C'est aussi l'inscription d'un temps dans le film.
Oui. C'est le seul que j'ai comme ça accompagné sur un long temps que je venais voir régulièrement. Et c'est le premier, c'est un des premiers que j'ai rencontré à Sarajevo et qui m'a vraiment donné envie de faire le film. Je me suis dit, je vais faire un film qu'autour de lui. Enfin, c'était peut-être tu le connais aussi, cet homme-là, non? Mais c'est quelqu'un qui fréquentait le centre André Malraux. Et puis, c'est quelqu'un qui est au demeurant d'une serviabilité énorme. Enfin, il donnerait tout. Et généreux et tout ça, et c'est certainement à cause de lui que je me suis dit je peux démarrer ce film, parce que c'était la clé d'entrée à cause du français, même si baragouine, mais on se comprenait très bien, et je m'accrochais à lui comme à quelqu'un qui allait pouvoir me guider. Et du coup, effectivement, avec lui, j'ai essayé de construire du temps. C'est le seul, et tous les autres ils passent, ils sont là qu'une fois. Et voilà.
Est-ce qu'il y avait... Sur combien d'années tu as tourné ça?
Je crois que j'ai tourné sur 4 ans ou 5 ans. Je crois que j'ai commencé à tourner en 2007 la première fois, et j'ai dû arrêter en 2011 le tournage. Donc ouais, ça fait 4 ans, je crois. j'essayais de retourner le plus souvent possible, le plus vite possible en fait, pas le plus souvent, mais j'essayais de ne pas laisser passer trop de temps. Je sais qu'il y a un moment donné, il y a quasiment 9 mois qui sont passés, et ça c'était très compliqué à gérer. Et j'essaye de comprendre ça maintenant, c'est qu'en fait cette histoire d'aller-retour, c'est à la fois extrêmement fatigant et à la fois très reposant quand on revient à chaque fois. Parce que c'est une ville qui est très chargée, il n'y a pas un vrai travail qui est fait par la collectivité, par les autorités, sur la réparation au sens psychologique du terme. Et du coup, tout est en vrac et les gens sont complètement désorientés par rapport à ça. C'est-à-dire que il y a quelque chose de, quand je parle de chaos, c'est ce chaos mental qui a lieu, qui a cours là-bas. Et du coup, moi je revenais, c'était. J'enlevais un peu tout ça, voilà, l'expédition était terminée, 15 jours là-bas, c'était très, très fort. Et à chaque fois, bon, j'y vivais quand même des trucs. C'était à chaque fois soit des belles rencontres et du coup ça me traversait, j'étais chargé de ça et puis du coup je pouvais revenir avec tout ça dégagé et repenser aussi au film que j'avais envie de faire. C'est pour ça que l'architecture est un peu comme ça de ce film aussi. Et bon voilà, très compliqué à gérer ça. Une ville peu après la guerre, moi j'avais été à Beyrouth au lendemain de la guerre, des 20 années de conflit, et puis c'est un drôle de sentiment quand on arrive juste l'année d'avant, il y a encore la guerre, et j'arrivais là, et c'était à la fois c'est magnifique parce que les gens n'ont plus rien, ils se démerdent avec tout, c'est super, il y a ce côté-là où on fait avec peu. Ils ont d'énormes leçons à nous donner parce que c'est un système D qui marche assez bien. Et puis le garagiste là il répare des 205, donc les 205 elles sont construites chez nous, et il a un stock, je crois que dans son garage il a collectionné tellement de pièces de 205, je crois qu'il peut monter une trentaine de bagnoles et tout ça, mais parce que les 205 elles vont durer à Sarajevo encore 20 ans, hein, et c'est une bagnole, on sait que c'était une très bonne voiture, j'y connais rien, mais il m'a expliqué. Mais lui, c'est bon, il peut en réparer, et les gens vont pas acheter des bagnoles neuves, parce que lui, il bosse pour les pauvres, de temps en temps, il y a une bagnole neuve qui arrive, il la dépanne, mais il rend des services où il travaille sur les pièces détachées, mais il va pas les acheter neuves, il va fourguer de la vieille pièce détachée. Et ça marche comme ça, parce qu'il y a des gens qui peuvent simplement pas dépenser 150 euros pour un carburateur. Voilà, c'est tout. Même si là-bas, ça coûte moins cher.
Le personnage, donc, tout sera oublié, a une 205.
Il a une 205 rouge.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors que pendant la guerre, il y avait beaucoup de Golf. C'était la Golf qui...
Il y avait une usine de Volkswagen à Sarajevo même. Il y avait une usine de construction de Volkswagen qui, après la guerre, les Allemands l'ont démontée. Ils ont tout ramené en Allemagne. Elle était implantée sur les hauts de Sarajevo.